Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Votre émission Histoire d'en savoir plus est aujourd'hui réalisée par Simon Martin, au micro Pierre-Alain Bénard, qui reçoit aujourd'hui Bernard Poquet. Bernard Poquet, bonjour.
Bonjour, Pierre-Alain.
J'ai le plaisir d'accueillir Bernard Poquet dans notre studio virtuel, au téléphone, pour Radio Grand Ciel, afin d'échanger sur ce que fut votre vie professionnelle, votre contribution au métier de géomètre expert en qualité de principal. Alors, vous avez une histoire qui n'est pas banale, à mon sens. Et elle commence, cette histoire professionnelle, jeune, à l'âge de 16 ans et quelques mois. Vous décidez d'interrompre vos études et d'entrer dans la vie active. Et c'est la lecture d'une annonce publiée dans un journal qui vous rapproche de Nicolas Steninger, alors géomètre expert à Dreux, lequel recherchait un apprenti. Et vous allez dans ce cabinet, et c'est pas une histoire, c'est pas neutre ce que je vais vous dire, vous faites connaissance d'Henri Blondeau, qui est entré peu de temps avant vous dans ce cabinet. Et en parallèlement, vous allez approcher la théorie, non seulement la pratique, mais la théorie, en travaillant par correspondance avec l'école chez soi, qui était un établissement sérieux de l'époque. Et vous faites votre service militaire en 65-66, vous réintégrez le cabinet Steninger, vous obtenez votre CAP d'opérateur géomètre, et puis ensuite, vous recherchez un nouvel emploi dans les annonces publiées cette fois-ci dans la revue de l'Ordre des géomètres experts. Vous m'arrêtez si je me trompe.
Pas du tout, c'est tout à fait exact.
Et puis, vous écrivez, une seule lettre suffit, vous écrivez au cabinet Roger Thomas de Mantes-la-Jolie qui vous embauche. Et là, vous changez de planète parce que après avoir travaillé à Dreux, vous travaillez en milieu urbain, et la topométrie urbaine est beaucoup plus exigeante en termes de méthode et de précision. Et là encore, vous avez un patron qui est un excellent pédagogue, non seulement dans la journée de travail, durant cette journée, mais aussi après la fin de la journée, vous travaillez avec lui. Et ce nouvel employeur cède son cabinet à une société Eugéto animée par Clément Abel. Et Clément Abel, qui est bien connu dans la profession pour diffuser ses connaissances en matière de problèmes de mathématiques dans la revue de l'Ordre des géomètres, eh bien, va vous aider, vous épauler dans le cadre de cours du soir. Vous vous mariez le 6 septembre 1969 avec Marie-Françoise et Henri Blondeau, que vous aviez rencontré initialement dans votre premier emploi, vient vous féliciter. Il vous annonce qu'il est diplômé et qu'il a succédé à M. Steninger. Et quelques mois plus tard, vous vous rencontrez et, ma foi, vous faites affaire, c'est-à-dire que vous allez entrer à son service le 1er avril 1970.
Et là, ça n'était pas un poisson.
Et non, c'est très sérieux. Et là, une carrière absolument intéressante va se dessiner avec une collaboration très, très intéressante, très, très positive, avec une équipe et l'expérience, l'ancienneté. Tout cela va se décliner au fil du temps et vous allez passer au statut de cadre et de collaborateur principal. Voilà un petit peu ce que j'aurais pu faire en lisant votre curriculum vitae, le parcours pour arriver à cette carrière très valorisante, très épanouissante. Alors, Bernard Poquet, finalement, votre rôle dans ce cabinet, lorsque vous étiez en régime de croisière, quel était-il ?
Eh bien, il était tout simplement de suppléer mon patron, Henri Blondeau, qui était géomètre expert, mais qui, pas convenance personnelle et par aussi goût des responsabilités, en avait pris beaucoup. Il avait notamment un engagement d'ordre religieux, puisqu'il était diacre. Ça lui prenait pas mal de temps. Il dirigeait, il s'occupait des jardins ouvriers à Dreux. Enfin, il était vraiment un peu partout à la fois. Et ça nous valait, disons, d'avoir par sa personne active une publicité non moins active pour le cabinet. Et nous, ma foi, le travail arrivant, on était chargé de l'exécuter au mieux de nos possibilités. Donc, c'était une collaboration tout à fait franche, tout à fait confiante, et je jouissais d'une grande autonomie.
Oui, vous étiez
dans mes décisions et dans la conduite des dossiers qui nous étaient confiés au quotidien.
Oui.
Voilà.
Votre fonction,
l'intérêt, disons, de ma situation.
Oui, votre fonction s'apparentait un peu à celle que j'ai connue dans le notariat, où nous avions des principaux clercs qui assumaient un travail de grande qualité, équivalent à celui de leur employeur. Et avant les associations qui se sont multipliées au fil du temps.
Oui, d'ailleurs, nous étions une profession très proche du notariat, dont on a emprunté beaucoup des termes. C'est pour ça ce titre de principal vient directement du notariat, c'est clair.
Bien sûr, je dois dire que dans le cadre de mes activités, j'ai eu bien sûr souvent affaire à votre cabinet. Alors, Bernard Poquet, est-ce que vous pouvez nous préciser à nos auditeurs un petit peu quels étaient vos domaines d'intervention ? Vous aviez une mission d'intérêt général, votre cabinet avait une mission d'intérêt général puisqu'il a un monopole.
Oui, tout à fait, bien sûr. Disons que les domaines d'intervention dans la profession sont multiples. Il y a d'abord, évidemment, celles qui nous sont statutairement réservées, la délimitation, le bornage, amiable ou judiciaire, l'établissement des procès-verbaux consignant les opérations, et puis, d'une manière générale, tous les documents ou plans qui sont destinés à être annexés à des actes authentiques. Voilà, ça c'est, disons, le jardin réservé, si je puis dire, de la profession de géomètre expert. Mais au-delà de cela, il y a les relevés topographiques, l'urbanisme dans lequel la profession a été amenée au fil du temps à prendre des responsabilités et des compétences, les divisions foncières, la copropriété, les lotissements, les implantations, la maîtrise d'œuvre, la gestion immobilière, certains cabinets s'y consacrent avec brio, et puis d'une manière générale l'expertise et le conseil pour la clientèle qui nous consulte pour ça.
Est-ce que l'on peut...
Dans les domaines de l'urbanisme notamment, qui se sont quand même relativement complexifiés, et les gens qui sont porteurs d'un patrimoine foncier ne savent pas toujours ou rarement ce qu'ils peuvent en faire et dans quelles conditions. On est donc là pour les entendre et les orienter et les conseiller utilement.
Justement, en matière d'urbanisme, voilà un particulier qui a un terrain situé dans une zone dite constructible, et qui veut être fixé sur les possibilités de construire, il peut s'adresser à un cabinet de géomètre pour solliciter un certificat d'urbanisme. Il peut être fixé sur les possibilités de construire. C'est cela, ce que vous...
Tout à fait. Disons qu'en fait, le praticien, le certificat d'urbanisme est surtout nécessaire, voire indispensable pour être annexé à un acte authentique pour fixer véritablement la qualité et la valeur du bien. Mais d'un point de vue du simple renseignement, le géomètre expert est à même de donner les informations aux particuliers qui souhaitent savoir les conditions dans lesquelles la parcelle dont il est propriétaire pourrait être lotissable, divisible, constructible, enfin bon, au gré des dispositions fixées par le règlement du document d'urbanisme. Donc ça, je dirais que c'est l'activité courante du géomètre qui est consulté très régulièrement pour cela. Enfin, du moins à l'époque où j'exerçais. Il y a déjà bientôt, il y aura 20 ans au mois de février prochain que j'ai cessé mon activité. Donc dans ce domaine particulier qui évolue beaucoup, il est des pratiques que je n'ai pas pu exercer.
Vous avez cité tout à l'heure le bornage, le procès-verbal de bornage. En quoi consiste un bornage ? Comment ça se passe ?
Alors le bornage d'abord, il est en général sollicité par une personne qui souhaite connaître les limites de son bien. ne sachant pas si elles existent ou des fois étant persuadé qu'elles n'existent pas. Donc ce client, s'il est, je dirais, s'il a une démarche conviviale normale et spontanée, s'entend déjà avec son voisin pour lui dire qu'il a l'intention de demander la délimitation et le bornage. C'est l'article 646 du Code civil qui prescrit tout ça, qui explique, qui commente. Et donc, deux cas sont considérés. Normalement, si tout va bien, bah, le voisin est d'accord parce qu'il a le même intérêt que son voisin à savoir où son bien commence et où il s'achève. Donc, les deux ou l'un des deux vient consulter le géomètre expert et le charge de mettre en place un bornage. C'est à ce niveau de l'intervention, c'est un bornage dit amiable. Voilà. Le géomètre se déplace, effectue ses mesures, aboutit à ses conclusions, les propose au client, sanctionne cela par la pose de borne, la rédaction d'un procès-verbal de bornage, que évidemment les deux parties signent. Intervient à ce moment-là une notion de partage des frais, parce que normalement le code civil prescrit le partage des frais proportionnellement à la surface des biens concernés. Donc souvent dans la pratique, c'était souvent le demandeur qui assumait les frais. Hein. Mais bon, pour la petite histoire, le partage est tout à fait possible puisqu'il est prévu par le code. L'autre cas, il est un peu plus délicat et plus lourd et plus dur à piloter et à mettre en place, c'est le bornage judiciaire, parce que ça sous-entend à la base une certaine friction, quoi. Donc le bornage judiciaire se fait bien évidemment à l'initiative et au rythme de la justice. Donc la conclusion, la finalité est la même, hein. De toute façon, c'est la délimitation du bien, mais c'est fixé par un jugement. Voilà la différence fondamentale.
J'entends bien.
Et en général, ça crée quand même, je dirais, un climat un peu désagréable, quoi. Mais c'est assez rare. Moi, dans notre pratique au quotidien, j'ai fait essentiellement. J'ai peut-être souvenir d'un ou deux bornages judiciaires à conséquences problématiques, mais c'est rare. Les gens en général s'entendent. D'abord, le bornage judiciaire coûte plus cher. Donc, c'est pas toujours une solution vers laquelle économiquement les gens s'engagent. Et puis, encore une fois, c'est un climat un peu tendu. Voilà.
Pourtant, vous pouvez avoir, le commun des mortels peut venir avec le plan cadastral et vous dire, ben, voilà mes limites de terrain. Donc, pourquoi aller vers le bornage ?
Il faut battre en brèche cette notion de plan cadastral. Le cadastre est un document, d'abord et avant tout, fiscal, qui sert d'assiette au calcul de l'impôt foncier, mais ça n'est pas du tout un document qui fait foi en matière de délimitation de propriété. Il n'a pas du tout cette vocation-là. Il donne une image du bien, il le quantifie, la parcelle, chaque parcelle est désignée au cadastre pour une superficie donnée, mais bon, la superficie, la précision, elle est aléatoire. Hein. Les plans cadastraux, d'ailleurs, sont dressés à des échelles relativement petites, donc c'est pas... Le plan cadastral n'a pas de valeur délimitative. C'est un puzzle qui a le mérite, il est très précieux le cadastre, hein. Il a le mérite de situer les biens les uns par rapport aux autres. Je dirais qu'au fil du temps, il a une certaine tendance à s'améliorer qualitativement, encore que la qualité aujourd'hui est un peu illusoire, c'est-à-dire qu'elle emprunte beaucoup aux possibilités de graphisme de l'informatique et de l'ordinateur, mais la vérité n'est pas toujours... n'est pas toujours présente dans le dessin. Donc voilà ce que je peux dire. Le cadastre, c'est une image fiscale. Hein. Ce n'est pas du tout un document qui fait foi en matière de propriété. On ne peut pas poser une petite règle sur le dessin du cadastre et dire « mon terrain fait 25,50 m de façade ». Ça, c'est fantaisiste. Il faut impérativement qu'une délimitation ou un plan ait été dressé antérieurement avec des dimensions précises, auquel cas là, on s'y réfère et cela fait foi. Ou alors des indices possessoires extrêmement anciens, des murs, des éléments stables, des éléments physiques qui ne sont pas discutés et qui sont présents depuis des lustres et sur l'existence desquels les gens s'accordent à reconnaître qu'elles constituent les limites de leur bien. Voilà. Mais autrement, le cadastre, non. Le cadastre, c'est une image. Voilà.
C'est une esquisse.
C'est une image qui représente le bien dans sa configuration globale, sans prétention autre.
Ce que je retiens,
en termes de garantie.
Oui, ce que je retiens, c'est qu'en fait, la référence cadastrale XY numéro 20 pour telle surface n'apporte aucune certitude. Seul le bornage permet d'assurer les limites d'une propriété. Et une fois que Absolument. Le bornage est fait, il est définitif.
Ah ben disons qu'aujourd'hui, en plus, il fait l'objet d'une forme d'enregistrement, disons numérisé, d'un stockage. On a en France un silo à bornage dans lequel toutes les opérations contemporaines sont répertoriées et sont envoyées pour être pour intégrer ce fameux silo qui peut-être un jour sera universel et complet, aura peut-être couvert tout le territoire. C'est certainement pas demain, mais ça viendra.
Et c'est géré.
Alors, je fais quand même, oui. par rapport au cadastre, je fais une petite exception parce que nous avons en France une région géographique qui est l'est de la France, l'Alsace-Lorraine, n'est-ce pas ? Et en Alsace-Lorraine, la présence des Prussiens, des Allemands là-bas pendant un certain nombre d'années et leur pragmatisme et leur sens de l'organisation, l'histoire a fait que l'Alsace-Lorraine a été dotée par les Allemands, quand ils étaient présents là-bas, d'un livre foncier. Le livre foncier, c'est un document qui a la même portée que le cadastre, mais qui, qualitativement parlant, est nettement supérieur. Il était dressé avec des moyens de précision qui étaient tout à fait supérieurs au cadastre français de l'époque, et toujours le même d'ailleurs. Donc ce livre foncier, c'est une notion que la profession de géomètre, d'ailleurs Henri Blondeau fut à l'époque où il était président de la chambre départementale de l'ordre des géomètres experts, et un certain nombre de confrères, ont prêché pour que l'expérience du livre foncier due à une séquence historique de l'histoire de France soit étendue à la totalité du territoire. Bon, ils ont prêché un peu dans le désert, ça ne s'est pas fait et c'est dommage.
Très bien, oui, parce que c'est le droit allemand qui s'applique toujours en Alsace.
Oui, tout à fait. Et puis bon, ce sont des gens qui sont, il faut le reconnaître, assez pragmatiques et assez organisés, et qualitativement et professionnellement sérieux. Bon, donc, ce livre foncier, c'est vraiment, il est cité comme un modèle du genre. Voilà.
Effectivement. Et quels étaient vos interlocuteurs dans le cadre de votre cabinet ? Je présume que vous aviez, pour l'essentiel, l'administration fiscale, le cadastre, les collectivités locales.
Dans le cadre du bornage que nous venons d'évoquer, nous avions les tribunaux, les juges qui nomment les experts et qui les sollicitent pour obtenir de leur part des rapports circonstanciés qui les aident dans leur prise de décision, les avocats, les huissiers, les études de notaires qui étaient des pourvoyeurs d'ordre essentiels, qui sont toujours d'ailleurs pour les cabinets de géomètres, les agences immobilières, les ingénieurs et cadres de l'administration, parce que nous travaillons à la requête de l'administration, l'équipement, l'aménagement du territoire en général, les maires des collectivités, leurs services techniques, et puis aussi, bien sûr, la masse des particuliers, voilà, la clientèle particulière.
Nous n'avons pas abordé la question du remembrement.
C'est quelque chose. J'allais y venir, je peux faire une petite parenthèse parce qu'effectivement, je suis rentré dans la profession, vous le rappeliez tout à l'heure, par la petite porte de l'apprentissage. Et il se trouve que cette porte, à l'époque où j'ai commencé à travailler, s'est ouverte pour moi sur le remembrement. Et le remembrement, ça a été une énorme affaire qui a occupé la profession des géomètres experts pendant au moins 20 ans, si ce n'est plus, sur l'intégralité du territoire, puisque la France est rurale et agricole, comme chacun sait. Donc, c'était une prise de contact avec le métier qui était un peu difficile, quand même un peu ingrate, je dirais, parce que c'était la plaine agricole, la terre, la boue, souvent, et que nous arpentions donc au quotidien et dont on pressait les plants par milliers d'hectares. Et en substituant à la toile d'araignée du parcellaire ancestral, des vastes espaces destinés à la mise en œuvre de la mécanisation et puis de la culture intensive. On n'avait pas tout à fait idée, en pratiquant cela, que nous aurions les effets que nous connaissons aujourd'hui, mais bon, c'était une autre époque. Et il fallait rationaliser, il fallait surtout faire en sorte que les moyens agricoles contemporains puissent s'exprimer sur notre territoire, alors qu'auparavant, le parcellaire rendait la chose parfaitement impossible. C'était beaucoup trop dense, les parcelles étaient beaucoup trop petites. Donc le remembrement était une mesure quand même, malgré tout, tout à fait utile. La parenthèse que l'on peut faire maintenant avec le recul, c'est que le remembrement était une affaire de géomètres, alors que les géomètres ne sont que des techniciens de la mesure. Et il aurait été utile, voire souhaitable, salutaire, que soit associé à la réflexion des gens évoluant dans des matières qui n'existaient pas encore. Je pense à l'écologie, quoi. Si on avait eu des ingénieurs agronomes, si on avait eu des gens capables de nous éclairer, parce que le gros travail du remembrement dans une commune, c'était la commission communale de remembrement qu'il produisait en classant les terres. Et le classement des terres, c'était une chose à laquelle nous ne pouvions pas, nous, mettre notre grain de sel, si je puis dire, parce que on n'était pas cultivateur. Donc, on arrivait sur un territoire, la commission communale se constituait. Le procès qu'on peut faire de cela, c'était souvent les gros propriétaires fonciers qui imposaient un peu leur point de vue, et puis les petits qui, dans leur coin, subissaient. C'est un peu le souvenir que je garde de ça. C'était pas tout à fait limpide. Voilà. Néanmoins, c'était nécessaire, et ça a été fait. Donc derrière le remembrement, il y avait les travaux connexes, les chemins qui étaient arasés, certains bois qui étaient rectifiés. Souvent intervenait aussi derrière de l'assainissement. Ça aussi, toutes ces interventions successives et concomitantes ont eu pour effet de modifier quand même un peu les conditions, non pas climatiques encore à ce moment-là, mais malgré tout, le régime des eaux, pas mal de choses qui se sont trouvées influencées par cette opération considérable qui a concerné tout le territoire. Mais bon, c'était une époque. Il fallait sans doute le faire, c'était indispensable.
Bernard Poquet, je me permets de vous rappeler qu'il nous reste quelques minutes,
oui,
parce que malheureusement le temps passe. Nous avions beaucoup de choses à dire. J'aurais souhaité que vous délivriez un message à destination des plus jeunes, des jeunes qui peuvent être intéressés par ce métier, ou tout simplement qui voudraient, je dirais, s'engager peut-être plus rapidement dans un métier, quel qu'il soit, en empruntant peut-être le parcours, dans la mesure du possible aujourd'hui, celui que vous avez emprunté, c'est-à-dire aller vers le professionnel d'abord, aller vers un professionnel que l'on choisit, vers un métier que l'on choisit, à travers un stage, à travers un rendez-vous, aller sur le terrain, plutôt que d'embrayer sur des études longues. Est-ce que la démarche ne doit pas passer d'abord par le choix d'un métier, d'un professionnel, quitte à passer ses vacances pour voir comment ça fonctionne? Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces plus jeunes ou aux enfants de nos auditeurs ou leurs neveux, nièces, pour avancer dans la vie et s'engager dans une profession?
Alors, il est certain que c'est une carrière dans laquelle on ne peut plus aujourd'hui s'engager à la légère. De la manière pratique, je ne peux pas dire que je l'ai fait à la légère, mais il y avait un pourcentage de hasard dans mon parcours qui était quand même relativement important, même si le hasard, au long terme, a bien fait les choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'accès à l'exercice de la profession est conditionné par l'obtention d'un diplôme. Diplôme d'ingénieur géomètre, c'est Bac plus 5. Et puis, la justification d'une pratique au sein d'un cabinet de 2 ans. Je crois que ce sont toujours les règles qui sont en vigueur aujourd'hui. Donc, ça n'est pas rien. Quand on est ingénieur géomètre topographe, c'est tout de même une spécificité, une discipline qui est relativement orientée. On ne peut pas faire ce choix à la légère, parce que ça engage quand même des années d'études. Et puis, il faut quand même aussi, peut-être, c'est vrai que là, les vacances ou une connaissance, une relation, ou bon, bref, un petit coup de pouce donné par les uns ou les autres, ce serait intéressant d'avoir un contact pour savoir de quoi le métier est fait. Ça me semble tout à fait indispensable, parce qu'encore une fois, il y a une dimension paysagère et climatique dans le sujet. Il faut quand même prendre en compte que on n'est pas toujours au soleil, hein. Bon, donc voilà, ce sont les aspects de la profession, les aspects bassement matériels dont il faut s'imprégner et se persuader avant d'y entrer. Mais après, ma foi, c'est une profession extrêmement intéressante, agréable à plus d'un titre, parce que elle ménage beaucoup de contacts. Il y a l'activité de terrain, il y a l'activité de bureau. Sur le terrain, quand on est dans une province normalement constituée, on a l'urbain, on a le suburbain, et puis on a le carrément rural, qui sont des milieux au sein desquels ne se développent pas ni les mêmes relations, ni les mêmes travaux, ni les mêmes emplois. Donc c'est varié à tout point de vue. Donc moi, je ne vais pas cracher dans la soupe, je vais faire la promotion de mon métier. C'est pour des jeunes quelque chose de tout à fait gratifiant, parce qu'on bouge, on bouge, on respire, on est à l'extérieur, à l'intérieur aussi, et puis on fait un métier que je qualifierais d'intelligent. Ça me met en souvenir une anecdote. Nous avions, quand j'étais apprenti, un voisin qui était professeur et qui nous rendait souvent visite parce qu'il nous aimait bien, on était jeunes, il venait nous voir pour nous saluer. Et quand il nous voyait environnés par nos instruments savants sur nos tables à dessin, il nous disait toujours: vous faites un métier intelligent. Ça nous amusait beaucoup. Donc c'est resté cela. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de parties de la profession qui ont été escamotées par l'informatique, parce que le dessin, on n'en fait plus beaucoup. Tout ça est assisté par ordinateur. Bon, c'est une autre époque, tout simplement. Mais je pense que les jeunes, et d'ailleurs la profession, je fais une parenthèse, à l'époque où j'y suis entré, les femmes étaient absentes. Aujourd'hui, les femmes sont très présentes dans la profession, et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Donc, il y a une évolution, et je trouve qu'elle est favorable, et le métier reste, en termes d'intérêt, le métier reste ce qu'il était. C'est intéressant à pratiquer. Voilà ce que je puis dire.
Bernard Poquet, j'ajoute que j'ai lu dans la revue Le Moniteur, 29 juin 2021, c'est pas si vieux, que le métier de la filière géomètre arrive à la troisième place des professions confrontées aux plus grandes difficultés de recrutement, derrière les aides à domicile et les médecins. 1300 postes à pourvoir dans les cabinets de géomètres experts. C'est pour appuyer votre démarche.
Oui, bah
Voilà, il nous reste malheureusement plus.
c'est surprenant.
Il nous reste plus beaucoup de temps pour conclure. Bernard Poquet, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Merci de nous avoir fait l'honneur et l'amitié de venir jusqu'à Radio Grand Ciel. Merci.
Eh bien, ce fut un plaisir pour moi. À bientôt, au
À
revoir.
bientôt. Au revoir.
Zaini tai zani kulu, wane la fitani, andaku.